des jeux vidéo cultes. Profitez toute la journée d'animation ludique. Cinéma Paradiso vous embarque dans une expérience inédite pendant 12 jours, en plein cœur de Paris. Plus d'informations sur radiofrance.fr. Requiem de Verdi, par Daniel Egati.
Une danse des morts en forme d'opéra.
Un concert de Radio France, à vivre les 16 et 18 juin à 20h au Théâtre des Champs-Élysées.
Avec Barbara Frittoli,
Sonia Ganassi,
Fabio Sartori,
Mathis Alminen,
l'Orchestre National de France
et le Chœur de Radio France.
Tous nos concerts au 01 56 45 16
et sur concert.radiofrance.fr.
France Inter. La voix est libre.
Vous l'attendiez, il est là, Daniel Mermel, là-bas, si j'y suis, c'est parti.
Clément est mort, il y a eu un tas de manifs dans la rue, les antifascistes ont été présents, ils étaient seuls, ils ont toujours été seuls dans le combat antifasciste. Du point de vue du terrain, ils ont toujours été seuls. Aujourd'hui, on se réveille, on les qualifie parfois des militants d'extrême gauche. Quelle importance. Qu'est-ce qu'on va faire demain, maintenant, quand on aura passé l'émotion? Quand Clément sera enterré, qu'est-ce qu'on va faire? On va devoir occuper le terrain, parce qu'on ne peut pas leur laisser le terrain à ces gens-là. Parce qu'on sait déjà ce que ça donne, le fascisme. Il va falloir lutter aux côtés des personnes homosexuelles, des personnes qui vont se marier, du même sexe. Il va falloir lutter pour les sans-papiers. Il va falloir se défendre pied à pied, parce que ces gens-là, ils sont dans la rue. Ils sont partout. Il va falloir bouger notre cul, parce que là, ils ont déjà pris pas mal d'avance.
Foutez-moi tous ces musulmans, tous ces gris dehors, c'est pas possible. Moi, je deviens raciste, c'est pas possible. Ces messieurs, dames, musulmans, la maghrébins, sont bigames, trigames. Ils fraudent la CAF, la CIQ, tout. Puis nous, français, de souche française, on peut rien avoir. Mais c'est une honte, une honte. Je n'en peux plus de ça. Marine Le Pen a raison. Son père avait déjà raison. Foutez-moi tous ces étrangers dehors. La France aux Français.
Monseigneur Gaillot prend parti pour le mariage pour tous, ouvert aux homosexuels. À Thierry Ardisson, qui le félicite pour cette ouverture d'esprit et cette tolérance, il répond « Ce n'est pas de la tolérance, ce n'est pas de l'ouverture d'esprit, c'est du droit. » S'il y avait un peu plus de curés comme ça, je pense qu'on irait tous à la messe chanter du gospel.
À propos de l'intervention de Sternel dans la basse J'y suis le 7 juin, je trouve que c'est bien de regarder la réalité du FN en face. Et c'est clair que les politiques néolibérales menées par les droites dites modérées et par les partis socialistes en Europe, leur soumission à la Troïka, BCE, FMI, Commission européenne, il est bien clair que ces politiques font le lit des nationalismes en Europe. Comment peut-on dire aujourd'hui que le FN est le seul en France à apporter une alternative aux classes populaires? Eh, Mermet, tu pourrais pas demander à Sternel ce qu'il pense des 4 millions de voix du Front de Gauche au présidentiel de 2012. Bernard de Marseille.
Ce que dit Zef Sternel dans l'émission de vendredi pourrait laisser penser que le sentiment anti-européen est une spécificité de l'extrême droite. C'est pas exactement ce qu'il dit, mais c'est ce qu'on pourrait comprendre. Rappelez que le Parti communiste, par exemple, s'est pendant longtemps opposé au traité européen. Des années 50 et jusqu'en 2005. Mais la gauche a progressivement abandonné la défense de la souveraineté nationale au grand bénéfice de l'extrême droite, qui instrumentalise l'idée de nation pour en faire une arme contre les autres nations et contre une partie de la population qualifiée de nationalement impure. Cet abandon par la gauche de l'idée nationale est en contradiction avec les principes internationalistes qu'elle prétend porter par ailleurs. Parce qu'il n'y a pas d'internationalisme s'il n'y a plus de nations. Or, l'Union européenne veut la fin des nations, et notamment de la nation française. Les politiques de décentralisation, par exemple, visent depuis les années 80 à la création d'une Europe des régions. Visent à liquider les communes, les départements, qui sont des héritages révolutionnaires, pour les remplacer par des technostructures sur lesquelles le peuple n'aura aucune prise. L'Europe fédérale est un projet qui se construit contre les peuples, et les fascistes ont eux aussi soutenu ce projet. L'idée de la création d'une Europe politique, elle n'est pas nouvelle, et Hitler partageait cette idée. Les pères fondateurs de l'Union européenne sont d'ailleurs des personnages marqués très à droite, voire à l'extrême droite. Je vous invite à lire un texte qui s'appelle « D'étranges pères fondateurs » sur Internet. Salut.
Merci pour tous ces messages, chers AMG. Aujourd'hui, des produits qui sauvent des centaines de milliers de vies chaque instant dans le monde. Des produits qui soulagent de la douleur, des produits indispensables sortis de l'intelligence humaine, les médicaments. Les médicaments sont des produits qui, aujourd'hui, sont sous le contrôle d'immenses entreprises qui ne poursuivent qu'un seul but, le profit maximum. Si vous prenez Sanofi, première entreprise pharmaceutique française, vous en avez dans votre poche, dans votre salle de bain, près de votre lit, des produits Sanofi. Notre santé, nos douleurs, notre vie, notre survie dépend de Sanofi. 105 000 collaborateurs, dont 27 000 en France, 35 milliards de chiffre d'affaires en 2012, dont 5 milliards consacrés à la recherche et au développement. Or, Sanofi est passé d'une politique industrielle à une politique financière au profit de ses dirigeants, vous allez voir, et de ses actionnaires, les gros actionnaires comme L'Oréal, les grands fonds de pension, mais aussi les petits actionnaires comme des salariés de l'entreprise, et même au profit d'un tout petit actionnaire, 83 euros, tout petit, qui s'appelle Gaylor Van Wimersch, et qui, ah oui, il est reporter à la BAS si j'y suis. Et il est très très naïf, il est très gentil, il est très très naïf, parce qu'il a entendu dire que Sanofi reverse 35% de ses 9 milliards d'euros de bénéfices, à qui donc? À ses actionnaires. Alors il s'est dit, pourquoi pas moi, je vais aller voir Sanofi qui est vraiment très sympa. Et on verra aussi si Sanofi est aussi sympa avec les salariés de Montpellier et de Toulouse qui mènent depuis juillet dernier la lutte contre un indispensable plan de restructuration. Mais tout s'arrange, là ça va bien finir cette émission parce que Arnaud Montebourg est là. Arnaud Montebourg, c'est lui-même qui a sauvé ses emplois, ce qui est quand même très sympa. Voilà notre sujet du jour, Sanofi, Sanofric. Le capitalisme nuit gravement à la santé. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
Aux AMG Dijonais, mardi 11, 20h, à l'annexe, 47 rue de Vosges. Quelques douceurs salées ou sucrées seront les bienvenues. À bientôt.
Oui, bonjour à tous. Vous avez peut-être remarqué que les journaux nationaux de France 3 sont perturbés. Le 12-13, le 19-20 et le Grand Soir 3. Ce sont 150 techniciens qui sont en grève depuis 16 jours ce vendredi 7 juin. La semaine dernière, M. Fillon a annoncé dans la presse la signature de l'accord collectif à France Télévisions avec l'ensemble des syndicats. C'est ce nouvel accord collectif que nous contestons, un accord historique selon M. Fillon. Notre PDG ne dit pas bien sûr que la négociation loupée de cet accord se traduit par des inégalités de traitement entre les salariés de l'entreprise unique. Depuis le début du mouvement, la direction affiche une sérénité sournoise et depuis 3 jours contourne la grève en diffusant le JT depuis la régie finale de France 3. FTV Entreprise Unique, à très bientôt.
Bonjour, le repère de Vienne en Isère vous invite ce mardi 11 juin à 19h45 au Boug. Au menu, rencontre avec François Hulbert, auteur de « En finir avec l'organisation centralisée du territoire, 40 ans d'exception française, ça suffit ». On pourra échanger autour de la fusion du Grand Lyon et du département du Rhône, du cumul des mandats et de tous ces projets de loi sur la décentralisation qui a bien du mal à faire passer le gouvernement. Ciao.
Surprise et du changement à la tête des capitalisations boursières de France. Le géant du pétrole Total, à la première place depuis 2008, eh bien, a dû passer le témoin ce jeudi. La plus haute marge du podium étant occupée désormais par Sanofi.
Je suis Sanofi.
Eu sou Sanofi.
Seit 20 Jahren dabei, ich bin Sanofi.
Je suis Sanofi.
Ja, je suis Sanofi.
Je suis Sanofi parce que à Sanofi, on a un travail qui a du sens.
Sanofi, le groupe pharmaceutique, l'un des 5 plus importants au monde, qui pèse désormais 89,47 milliards d'euros. Alors les bénéfices de ces laboratoires sont astronomiques, 2,2 milliards d'euros rien que pour le troisième trimestre 2012, 19,2% de gagnés à la Bourse de Paris depuis le 1er janvier. Et sans surprise, parmi les investisseurs du groupe français, eh bien on retrouve ni plus ni moins que Warren Buffett, le gourou des marchés américains. Tout va donc très très bien pour Sanofi, en tout cas côté pile. Car côté face, eh bien, il se murmure qu'une réorganisation pourrait supprimer près de 1000 postes d'ici 2015 en France. Et nul doute qu'avec les résultats affichés actuellement par Sanofi, eh bien, les syndicats auraient beaucoup, beaucoup à redire de cette réorganisation.
Salut, c'est Daniel Mermaz, c'est la Bastille, j'y suis avec Gaylor van Wimersch, Sanofi, Sanofric. Le capitalisme nuit gravement à la santé.
Cher Daniel, chers auditeurs, aujourd'hui est un très très grand jour pour moi. Voilà, après 2 ans passés à la Bastille, j'y suis. J'ai décidé aujourd'hui de me reprendre en main, voilà, de franchir le pas et de faire partie de la France du capital. Enfin, voilà, j'ai décidé de devenir moi-même actionnaire. Et je me suis un petit peu rencardé quand même, j'ai réfléchi à tout ça, j'ai regardé les cours de bourse, les cotations, et je vais tout simplement prendre des actions de la meilleure valeur boursière française, tout simplement. C'est-à-dire des actions de Sanofi, du laboratoire pharmaceutique français. Voilà, j'ai regardé. Et c'est pas compliqué, Sanofi, c'est l'entreprise qui se porte le mieux en bourse, c'est la meilleure entreprise du CAC 40, qui a dépassé Total en cotation boursière à la Bourse de Paris en novembre 2012, mais c'est aussi une entreprise qui traite très bien ses actionnaires, puisqu'elle leur verse de beaux dividendes. Sanofi a doublé les dividendes pour ses actionnaires entre 2004 et 2012. Alors je me dis qu'avec mon petit salaire de journaliste, ça va me faire, Daniel, un bon investissement, un bon placement. Et je me dis aussi que je vais faire partie maintenant de ces 4,5 millions de petits porteurs. 4,5 millions de Français ont des actions en bourse. Mais c'est un nombre qui a chuté dramatiquement depuis 2001. En 2001, ils étaient 7,1 millions. D'où la très grande inquiétude de Laurence Parisot qui a dit « La vraie réponse au financement de l'économie, c'est que chacun devienne actionnaire, que chaque Français investisse dans les entreprises françaises. » Et bien voilà, c'est ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui. Laurence, c'est un petit peu ton cadeau de départ que je te fais, puisque tu vas partir du MEDEF cet été, eh bien, je suis tes recommandations.
La vraie réponse au financement de l'économie, c'est que chacun devienne actionnaire, que chaque Français investisse dans les entreprises françaises. Et il y a beaucoup de modalités pour cela.
Et pour acheter une action Sanofi, eh ben, on va se rendre aujourd'hui à la BNP Paribas, on est à Pantin, dans le 93. On va se rendre dans les grands moulins de Pantin, chez BNP Securities Services.
Bien, tout d'abord, Rémi a raison de s'intéresser à la bourse. C'est sur le long terme le placement qui rapporte le plus. La bourse obéit à des cycles haussiers ou baissiers. Et le moment où l'on investit sur le marché des actions est très important. Nous sommes donc dans un cycle baissier. L'idéal donc pour se constituer un portefeuille. Avec cet inconnu, personne ne sait quand les marchés vont monter. On sait simplement aujourd'hui qu'ils sont très volatiles, donc le climat est plutôt spéculatif.
Alors quel tir
ne peut pas manquer la hausse.
Moi je suis pour la liberté, la liberté des capitaux. Mon argent doit circuler si je veux gagner le gros lot. Les entreprises sont ligotées par des lois socio-écolo. On me l'a dit à la télé, on me l'a dit dans le Figaro. Et chez Jean-Pierre Pernaut. Et ma liberté à moi passe pas par celle des clodos. Je suis contre la politique, je ne me sens pas concerné. Je n'aime pas les luttes utopiques, la droite, la gauche s'est dépassée. C'est dans mes temps préhistoriques que les patrons et les ouvriers se battaient comme des hystériques, car maintenant c'est terminé. Grâce aux grandes lois du marché, appel entrepreneur, et nous voilà réconciliés. Je suis contre l'État, car il enferme la liberté. Moi, je suis contre les lois qui empêchent mes actions de monter. Les politiques ne sont pas légitimes pour décider. Le MEDEF réunit les voix des vrais winners à écouter. l'élite de l'humanité. Ils ne demandent que le bonheur de ceux qui les ont fait gagner. J'ai soutenu France Télécom et la nouvelle économie et les fonds de pension Enron et puis Lehman Brothers aussi. J'ai perdu des sommes énormes mais je mangerai des pâtes aujourd'hui car l'élite parmi les hommes m'a dit d'acheter du Vivendi. Ça va monter dès mardi. Vive les petits porteurs, le marché et la riscophilie. Vive les petits porteurs, le marché et la riscophilie.
Récession sur la bonne pente et donc les marchés seront à nouveau orientés vers la hausse, sauf bien évidemment grosse catastrophe géopolitique.
Asseyez-vous, je vous en prie. Ce que je vais faire, c'est que pendant que vous allez remplir ça, je vais quand même voir comment ont évolué les cours ces derniers temps. Je vais téléphoner à ma collègue, elle me donne un peu la tendance de ça.
Des cours, ouais. Des cours, ça, vous pouvez me dire un petit peu. Bon, là, vraiment, tout se passe très bien. Je suis en train de souscrire ma première action. L'action Sanofi. Donc là, je suis avec ma conseillère, Madame Renaud, très gentille, de la BNP Paribas. Alors, qu'est-ce que vous a dit votre collègue?
Elle a regardé les cours de clôture, vous voyez, ça c'était lundi, le 22. Il était à 80, ça a remonté dans la semaine jusqu'à 84, c'est ouais. Les cours de clôture, hein, la tendance. Vendredi, ça a rebaissé à 82.
Et là, aujourd'hui...
Et ce matin, c'est entre 82,70 et 83,44. À 10h, le cours était de 83.
D'accord, donc ça monte.
Bon, enfin, oui, ça monte. Alors là, vous allez mettre Sanofi dans la valeur, dans la classe valeur. Donc, Sanofi.
Valeur, Sanofi.
En lettres, en dessous, ici, une.
Une action?
Oui.
Donc 4, ça fait 83 euros environ.
Alors oui, c'est bon, c'est ça. Ouais. Vous achetez au prix du marché, on a mis 1. Voilà.
Voilà.
C'est bien.
Bon, c'est pas si compliqué que ça en fait.
Non, bah non, non, non. Titres. C'est bien, c'est bien.
Bon, allez, bah merci beaucoup.
Au revoir.
Merci madame.
4,40, 4,40, oui. Oui.
4-4-4-4-4-50-00-08-61-2005-2006-2007 4-4-4-4-4-4-4-437-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-
Eh oui, on remarquera 4-4-4-4-4.
Voilà pour les conseils de cet après-midi. Bonne fin de journée et à demain matin.
Nous voilà à Orléans, sur un parking, et on va prendre place à bord d'un bus qui vient d'arriver, le bus des salariés de Sanofi de Toulouse, qui se rend aujourd'hui à Paris pour aller à l'Assemblée Générale des Actionnaires. Bonjour, bonjour.
Bonjour, bienvenue.
Merci. Voilà, on est à bord du bus des Sanofi, là.
Exactement, ouais, du bus des Sanofi de Toulouse, parce qu'il y a aussi Montpellier, la région parisienne et d'autres sites de Sanofi qui vont venir à l'Assemblée Générale. Tout le monde à Paris et les Toulousains sont sur la brèche.
Vous êtes parti à quelle heure là? Expliquez-moi un petit peu.
2h du matin.
Et le bus est plein.
Le bus est presque plein, ouais. Direction Paris et direction l'Empire. L'Empire de la finance. C'est-à-dire qu'on se dirige vers l'AG, l'Assemblée Générale des Actionnaires. Et ce qu'on a avec nous comme entreprise, c'est devenu un empire financier. On est venu là pour les attaquer.
Déclaration de guerre, là.
Mais c'est de fait, c'est ça. Il n'y a pas photo. Il y a des petites boîtes où vous avez un patron qui a bossé toute sa vie et qui défend un savoir-faire avec ses salariés. Ça, c'est un point A. Et nous, on est le point B, le point extrême, où il y a un type qui a jamais vécu dans la boîte. Et avant même d'avoir mis les pieds dans l'entreprise, il avait touché des sommes faramineuses.
Là, vous parlez de votre PDG.
Oui, tout à fait. Monsieur Vibarer, Christopher Vibarer. Et il déclare quelques années plus tard, dans la recherche, il n'y a plus rien à faire, c'est fini, cassez-vous. Quoi. Je crois que c'est eux qui nous ont déclaré la guerre en disant on va fermer votre site, on va fermer vos activités, vous allez aller voir ailleurs si le chômage ou si les activités sont meilleures. Il y a des tas de gens qui sont sur ce site et qui vont à terme pointer au chômage. Quoi. Moi, ça me scandalise à un point... C'est pas possible. Nous, on a une activité où on est censé trouver des médicaments pour sauver des vies. Et le type, il se pointe et il dit « Les gars, ça va pas le faire, faut partir. » Pour Toulouse, c'est clair, c'est 614 CDI. Ensuite, à Montpellier, il y a 200 chercheurs et ils disent qu'ils veulent plus faire de recherche à Montpellier. Donc, potentiellement, sur ces deux sites-là, ça ferait 800 personnes.
Dans l'actualité également, l'économie.
France 2, 26 septembre 2012.
Et l'annonce tout à l'heure par le 4e groupe mondial de pharmacie de son plan social en France, Sanofi. C'est de lui qu'il s'agit, va supprimer 900 emplois d'ici à 2015. Le dossier est particulièrement suivi, notamment par le gouvernement, parce que l'entreprise affiche par ailleurs de très confortables bénéfices. Bonsoir François Langlais.
Bonsoir David.
Vous avez des informations, vous nous révélez ce soir le dessous des cartes de cette décision de Sanofi.
C'est vrai qu'on peut se demander, au fond, pourquoi est-ce que des entreprises qui font autant de profits licencient. La réalité, c'est que les grandes entreprises vivent sous la loi de leurs actionnaires, qui veulent évidemment plus de profits, plus de dividendes, plus d'argent, et que les entreprises qui refuseraient cette loi, elles prennent le risque de ne plus avoir de financement bon marché. De plus, ces actionnaires, ils sont de moins en moins français. Les entreprises du CAC 40, les grandes entreprises, sont maintenant détenues pour moitié par des Américains, des Britanniques, des Qataris, etc. Sanofi, notre champion pharmaceutique national, il est détenu à près de 2/3 par des étrangers. Pour ces étrangers, eh bien la France et ses problèmes d'emploi, c'est très secondaire, surtout depuis l'été où le gouvernement a surtaxé leurs dividendes au nom du fameux redressement dans la justice. Donc aujourd'hui, ils font donc pression pour compenser cet impôt supplémentaire en améliorant la rentabilité des entreprises. Alors même que la France voulait taper les actionnaires au portefeuille, on se rend compte qu'ils rendent coup pour coup.
Merci François pour ces informations.
Là, Laurent, on arrive quasiment à Paris. Pourquoi vous avez décidé de vous rendre, voilà, vous les salariés de Sanofi, à l'Assemblée Générale des Actionnaires? Parce que c'est pas non plus normalement un lieu qui est dédié, dévolu aux salariés.
Oui, mais parce qu'on est actionnaire paradoxal, j'ai envie de dire.
Vous-même, les salariés, vous êtes actionnaires?
On est actionnaires. En fait, on est beaucoup plus salariés qu'actionnaires. Mais en tant qu'actionnaires, on est des actionnaires paradoxaux. Donc à nous de faire ressortir ce paradoxe et d'utiliser à fond. C'est-à-dire qu'il y a une législation sur les entreprises qui dit tout actionnaire a le droit de poser des questions, d'interpeller le président. Donc nous, on joue ce jeu-là. Et puis nous, notre rôle là, au point où on en est, c'est d'alerter le conseil d'administration, les autres actionnaires, l'opinion publique, des dangers de l'ultra-financiarisation de sociétés comme la nôtre. Moi, je me rappelle que qu'après la guerre, ce qui avait été construit par la résistance, il y avait quand même des valeurs. Et moi, je ne doute pas que ces gens-là, bah, ils attaquent ces valeurs. Hein, ils les attaquent de plein fouet, quoi. Et ils rendent Sarkozy comme un gauchiste. Puisque là, c'est moitié pour l'actionnaire, moitié pour tout le reste. Alors que Sarkozy disait un tiers chacun.
Ça, Sarkozy disait un tiers investissement, un tiers pour les salariés et un tiers pour les actionnaires. Et là, chez Sanofi, c'est 50% des bénéfices qui vont aux actionnaires.
Donc, conclusion, Sarkozy est un gauchiste. Si on le compare à M. Wieberer, le directeur général de Sanofi. Ces gens-là, ils attaquent la valeur travail. Et la valeur travail, je pense qu'elle est ni de gauche ni de droite. Elle est ce qui nous appartient, elle est ce qui nous donne une existence, quoi. Et ils attaquent notre existence, quoi. C'est aussi pour ça qu'on est motivé, ultra motivé, parce que quoi demain pour nos enfants et quoi demain pour nos vies? Ils ont cassé le contrat moral. Le contrat moral, c'était on fait de l'argent, mais honnêtement, il y a l'emploi, honnêtement, il y a la recherche, honnêtement, il y a la recherche médicale et l'intérêt médical. Voilà. Et là, ils ont absolument tout cassé. C'est-à-dire, non, nous, on veut l'argent maintenant, la recherche, vous dégagez, les emplois, vous dégagez, et puis nous, on va rémunérer les actionnaires à 50%. Les actionnaires et le fonds de pension, il est là, il dit, alors, ça crache alors, Chris, ça crache Et Chris leur répond, pas de problème, je m'occupe de tout. J'ai regardé, là, la société, elle va beaucoup mieux. Il y a des zones de croissance, c'est super.
Ça, c'est le PDG, Chris.
Et puis c'est...
Il y a qui comme actionnaire justement?
C'est surtout des fonds de pension. Le plus gros c'est L'Oréal.
Qui... L'Oréal.
Ouais, c'est encore Madame Bettencourt. Hein. La plus grosse actionnaire de Sanofi, de fait, c'est Madame Bettencourt. Depuis juillet dernier, le cours de l'action a grimpé.
Depuis qu'ils ont annoncé le plan de licenciement, le plan de restructuration.
Ah oui, c'est indéniable, indéniable.
Bon bah j'ai bien fait, j'ai pris mon action moi. Il était temps.
Donc bienvenue dans le club des actionnaires paradoxaux.
Merci beaucoup.
Ce qu'on vous propose, c'est que lors de l'Assemblée Générale, de pouvoir lever la main pour pouvoir poser des questions. Le but du jeu, quand même, c'est pas de se faire jeter de l'Assemblée Générale avant qu'elle ait commencé.
Toujours à bord du bus des Sanofi de Toulouse, une très bonne ambiance. Et là, c'est Denis, un salarié, qui briefe les troupes avant l'Assemblée Générale des actionnaires.
On va rentrer sobre, sans décoration particulière, sur les blouses, comme on a pu le faire jusqu'à présent. Stratégiquement aussi, donc il y aura la scène, parce que ça va être très théâtral tout ça. Et puis le conseil d'administration va se tenir sur le premier rang normalement. Ce serait bien qu'on soit au plus près du conseil d'administration. Donc d'avancer sur les sièges de devant.
Donc là, le bruit que vous entendez, eh bien, c'est des sirènes, vous avez reconnu, des cars de CRS. Là, il y a des cars de CRS qui arrivent, qui se garent juste derrière le palais des congrès, et eh bien, pour protéger les actionnaires, l'assemblée des actionnaires de Sanofi, et tout ce dispositif de sécurité payé avec l'argent de, je vous laisse deviner qui, la police d'État au service de l'actionnariat. Voilà, nous voilà à l'intérieur du palais des congrès, on vient de rentrer. Et là on est dans le grand hall d'accueil où il y a des agents de sécurité partout qui ont des costumes noirs et une petite oreillette à l'oreille. Là, ils sont devant les escalators pour empêcher bien les gens de monter. Et c'est assez impressionnant parce qu'ils sont, je sais pas, une quarantaine, une cinquantaine de vigiles comme ça, une compagnie privée de sécurité apparemment. Et là je me demande comment je vais faire pour déjouer leur vigilance parce que moi je dois monter avec mon magnéto et mon micro. Ah ouais, apparemment ils fouillent les sacs des gens. Ah, y a déjà des actionnaires qui attendent devant l'escalator. Sûrement des petits actionnaires, des petits porteurs. Je sais pas si j'arriverai à rentrer avec mon micro, là c'est un petit peu opération commando. Enfin réussi à rentrer dans l'assemblée générale des actionnaires de Sanofi et je peux vous dire que ça n'a pas été facile. Et là je suis en train d'enregistrer, non pas avec mon enregistreur de radio, mais sur un iPhone. Parce que ici c'est pire qu'un aéroport. Voilà, c'est des dispositifs de sécurité incroyables avec déjà bon, les CRS devant, mais à l'intérieur beaucoup d'agents de sécurité privés avec des petites oreillettes, voilà, qui vous font des check-ins et vous passez dans le détecteur de métal avec derrière quelqu'un qui vous palpe, etc. C'est assez dingue. C'est une forteresse. Et donc, j'ai pas pu emmener mon enregistreur. J'ai fait une première tentative quand j'ai vu qu'il y avait des portiques métalliques. Là, je me suis dit, ça va pas passer. Donc là, j'enregistre sur le téléphone portable, sur l'iPhone de Laurent, d'un Sanofi de Toulouse. Et maintenant, je suis à l'intérieur, dans la salle du Palais des Congrès, magnifique. Et là, je vais plus précisément dans les toilettes, voilà, puisque c'est un peu plus discret. Donc, on va prendre place dans cette salle. Voilà, on va voir l'ordre du jour. Et puis après, bah, y a un grand cocktail. Là, quand je suis arrivé sur la droite, il y avait des grandes tables avec une nappe bleue magnifique. C'est gigantesque, avec, je sais pas, 1000 coupes de champagne alignées. Donc, il y a le cocktail qui est prévu après. Mais ça, c'est si tout se passe bien. Est-ce qu'on va trinquer? Ça, on ne sait pas encore.
Et notamment un grand acteur industriel français, avec 26 sites de production et distribution employant 14 000 collaborateurs, réalisant 10,5 milliards d'exportations brutes, plaçant Sanofi au deuxième ou troisième rang des exportateurs français. Vous voyez que depuis 2008, la progression du titre de Sanofi a été de 71,4%.
Donc là, on a un tableau qui présente l'augmentation du titre donc des actions Sanofi entre 2008 et mars 2013. L'action a augmenté de plus 71,4%, alors que l'ensemble du CAC a baissé de 13,5%. Augmentation 71,4%.
Sanofi continue de proposer un rendement des dividendes. Et le taux de distribution qui vous est proposé cette année...
Alors ça, c'est les dividendes. 45% des bénéfices, des profits. Voilà. À 2,77€ le dividende par action.
Je vais tout de suite me tourner vers la rémunération du président.
On va parler des rémunérations. Alors,
la rémunération de M. Vabert.
Donc, ça, c'est le président. 700 000 euros.
transparent.
Je vais maintenant me tourner vers la fédération du directeur général.
Alors, le directeur général, c'est Christopher Wirbarer. Combien il gagne? Alors, la partie fixe, c'est 1 260 000 euros par an. Partie variable, 2 268 000 euros. Soit 180% de son salaire fixe. Qu'est-ce qu'il a dit?
Bravo. La motivation des salariés est un critère de...
Ah, dans ses rémunérations variables ça, du directeur général. Ah, c'est houleux, là. Ça commence à s'agiter.
Le conseil a décidé de donner à monsieur Wirbarer...
Donc le conseil a décidé de donner des stock options et des actions de performance donc au directeur général, c'est-à-dire en tout 280 000 euros de rémunération supplémentaire juste en options, stock options et en actions de performance. Voilà, il se fait siffler.
Le place parmi les dirigeants des sociétés du CAC 40 les mieux rémunérés.
Et là, j'ai un monsieur devant qui montre en fait un journal où c'est marqué que le directeur général de Sanofi gagne en fait 7 100 000 euros. 7 millions 1.
Et que ce même pourcentage a été retenu pour l'année 2013.
Bravo.
Le président a également souhaité renforcer l'actionnariat salarié. Il y a eu 5 plans depuis 2005.
On préférerait des emplois.
Est-ce que vous allez me laisser parler, imbécile?
En ce qui concerne la gouvernance, votre conseil d'administration a bénéficié
ah,
de...
Quelqu'un qui se fait virer là, à l'Assemblée. Un monsieur là, qui se fait raccompagner à la sortie déjà, alors que ça fait qu'un petit quart d'heure que ça a commencé.
Je vais maintenant laisser la parole à Teddy Barreur pour la présentation de l'activité de...
Voilà, le directeur général qui s'avance vers la tribune, qui se fait siffler.
Vous connaissez maintenant le parcours de notre entreprise des derniers 4 ans. En 2008, 15 médicaments ont fait 2/3 de notre chiffre d'affaires.
Là, voilà. Alors là, on nous montre des chiffres. Ça montre bien la bonne santé de Sanofi, puisque là, on a un tableau qui nous montre l'augmentation du chiffre d'affaires de l'entreprise entre 2008 et 2012. C'est un chiffre d'affaires qui est passé de 27 milliards d'euros à 35 milliards d'euros aujourd'hui.
Les marchés émergents. Nous sommes leaders dans ce pays. En total, croissance de 9,9%. Nous avons
Monsieur Wirbarer, il s'exprime quand même avec 5 gardes du corps devant la scène.
Ah, je ne les avais pas vus, il y a 5 gardes du corps qui sont postés devant la scène, c'est ça?
C'est assez impressionnant.
Je vais vous dire aussi, c'est parce que Monsieur Wirbarer, votre directeur général, Laurent, il pèse quand même 7 millions d'euros. C'est son salaire, alors il faut bien 5 gardes du corps pour protéger 7 millions.
En Asie, plus 10... En Afrique et Moyen-Orient, nous sommes également leaders, plus 10.
Tout va bien, pour l'instant, je n'ai pas relevé une seule fausse note. Tous les signaux sont au vert. Pour la santé financière du groupe, tout est parfait. Depuis le début de la présentation, là, on a vraiment un tableau idyllique, 10 sur 10, partout.
C'est vrai. Et pourtant, une des conclusions sera il faut supprimer les emplois. Il faut voir au prix de quoi tout cela est fait.
Au prix de quoi se font tous ces bénéfices? Là, il y a des sifflets qui s'élèvent.
S'il vous plaît, laissez monsieur faire terminer sa lecture. S'il vous plaît.
Et il y a un monsieur qui s'énerve là. Hein.
C'est quelqu'un qui est dans la chimie et qui est dans le plan de la chimie et qui n'a toujours pas de solution. Et ils sont une trentaine, une quarantaine.
À être déjà licenciés.
À être dans le tuyau pour être licenciés, mais ils ne savent pas comment.
C'est un écran de fumée!
S'il vous plaît, vous n'interrompez pas.
Voilà, il y a quelqu'un qui exige que les CRS interviennent pour sortir les salariés qui sont là et qui protestent. Un actionnaire qui vient de dire ça.
Vous ne pouvez pas continuer à interrompre le fonctionnement de l'Assemblée. S'il vous plaît.
Huissier!
Il y a d'autres instances pour discuter de ces sujets, pour les poser, mais on ne doit pas laisser continuer l'Assemblée de cette manière.
Ça va, ça suffit!
Voilà. Il y a des gens là, qui sont mis tout en haut de l'Assemblée Générale, voilà, qui entonnent la Sanofienne, l'hymne de Sanofi.
Son credo s'est restructuré.
Et là, tous les salariés de Sanofi enfilent leur blouse blanche et se lèvent pour chanter la Sanofienne.
La voix des patrons mercenaires, ils viennent le laboratoire,
remplir les poches des actionnaires. Aux armes sanofiens, sortez des bâtiments, criant, criant d'une seule voix, non licenciement. Ouais.
Le boîtier qui vous a été remis à l'issue de l'émargement.
Voilà, c'est le moment du vote.
Et il ne vous sera alors plus possible de voter.
Le vote est ouvert.
Petite musique pour le vote.
Le vote est clos. La résolution est adoptée.
Alors, c'est assez hallucinant, 99,74%.
Quatrième résolution.
Là, vous êtes une ancienne salariée licenciée, mais vous votez où?
Oui, je sais que ça ne sert pas à grand-chose. Je représente 0,05%, j'en sais rien. Mais je suis venue aussi pour voir... Oui.
Vous êtes venue pour?
Pour voir les discussions et puis pour toujours voir si les rapports sont mêmes entre les soi-disant actionnaires qui sont ici et qui se croient riches, alors qu'ils ne représentent pas grand-chose, non. Et les salariés, j'espère que les salariés, finalement, un jour, feront entendre leur
voix. Vous avez été licencié, ça, il y a 3 ans, Sanofi.
Ouais, 3 ans.
Notre assemblée générale est terminée, merci.
C'est la fin de l'assemblée générale, on va s'en aller. Je ne vous ai pas demandé votre prénom, c'est quoi
Daniel.
Daniel. Voilà, les applaudissements, et nous, on quitte la salle avec Daniel. Vous restez au cocktail, vous?
Ah bah bien sûr, attends, je suis venue là pour ça aussi.
Ah, vous êtes venue pour le champagne.
Il n'y a pas de raison, hein, si Sanofi, pour une fois que Sanofi paye le champagne à ses salariés.
Oui, bien sûr. S'il vous plaît.
Ah, il y a des cadeaux?
Des cadeaux, mais les boîtiers, c'est à droite ou à gauche?
Attends, je vais chercher mon cadeau. L'année dernière, c'était une montre.
Ah, on va prendre notre cadeau. Alors, c'est quoi les cadeaux? On va regarder ensemble, Daniel. Du coup. C'est un bel agenda, ça. Un agenda Sanofi avec le stylo.
Ça.
Vous le voulez pas? Moi, je vous le prends, hein, sinon.
Non,
il est hyper beau.
Vous me le donnez à mon neveu, tu rigoles.
Ah bon, vous me le donnez pas à moi?
Ah bah non. Et puis là, c'est le billet qu'ont distribué les organisations syndicales.
Ah, sympa.
Dites stop aux suppressions d'emplois visées purement financières, voilà.
Elle a été licenciée, cette dame.
Vitry Alfort-Vich a été licenciée, soi-disant économique, il y a 3 ans.
Ouais.
Avec... Alors, effectivement, c'est une grosse boîte qui a l'air insolide. Du coup, je touche l'équivalent de ma retraite, en pré-retraite. Mais par contre, j'ai interdiction de travailler.
Hein. Ouais,
pas de beurre dans les épinards, hein. Ça, c'est interdit hein, par Sanofi. Alors que le cumul des mandats dans les administrateurs, c'est bien connu, ça.
Eux, ils peuvent.
Eux, ils peuvent, mais nous, négatif.
Vous en avez encore un peu plus.
Bon, j'ai soif, à force de parler.
Hein. On va aller prendre une petite coupe de champagne, Daniel. Jouez des coudes.
Le papier avec la canne.
Ah, il y a un papier là, avec la canne, oui. Là, il y a une place qui se libère. Oh là là, la dame nous passe une assiette, c'est magnifique.
Là, je vais tenir la fille.
Ah, il y a plein de mains qui se tendent. Ah, il y a un monsieur qui en prend plein, là, qu'on a plein dans les mains. Ah, bah bon appétit, messieurs, dames. Bon appétit, monsieur.
Il n'y a pas de champagne.
Il y a des gens qui se jettent véritablement sur la nourriture.
Il n'y a pas de champagne. Ils ont fait des économies cette année.
C'est les bouts de ficelle, hein, c'est la crise là.
Jus d'orange and Coca-Cola.
On va prendre un verre de Coca. Hein. Merci beaucoup, merci madame. Bon, chin, hein, à la vôtre Daniel.
Chin quand même.
On peut apprendre aux chimpanzés la langue des sourds-muets, entraîner un bourrin. À gagner le quintet, on peut apprendre à l'éléphant à se dresser sur ses pattes, apprendre aux chiens savants à jouer les acrobates, mais on n'apprend pas à un porc à cesser de se gaver. Tant qu'on remet de l'or dans son écuelle d'acier, on n'apprend pas à un porc à cesser de se gaver. On peut apprendre la vertu à toutes les salaces, partager une laitue au lieu de faire des trucs dégueulasses. On peut apprendre à une nonne contre tous ses principes qu'on n'a jamais tué personne en fumant une pipe. Mais on n'apprend pas à un porc à cesser de se gaver. Tant qu'on remet de l'or dans son écuelle d'acier, on n'apprend pas à un porc à cesser de se gaver. ma part.
L'assemblée générale des actionnaires de Sanofi est terminée, mais les salariés n'ont toujours pas eu de réponse de la part de leur direction sur l'avenir de leurs emplois. Alors on va donc se rendre ce matin à Toulouse, où Arnaud Montebourg, le ministre du redressement productif, doit rendre son rapport ministériel, voilà, en préparation depuis des mois, sur l'avenir du site et des emplois de Sanofi à Toulouse. 614 emplois menacés. Mais Arnaud Montebourg et ses équipes se démènent depuis des mois, depuis l'annonce du plan social chez Sanofi, pour conserver les emplois en France. Et ils semblent avoir maintenant tous les arguments de leur côté, c'est-à-dire que Sanofi touche 130 millions d'euros de crédit impôt recherche par an, donc de défiscalisation, mais également prélève 3,3 milliards d'euros de son chiffre d'affaires en France, des remboursements sur les caisses de l'assurance maladie, donc de la sécurité sociale. Bref, Sanofi reçoit des aides publiques et des remboursements de notre système de solidarité nationale. Il est donc normal que l'État fasse fléchir un grand groupe du capital pour le maintien des emplois en France, direction Toulouse, où on va aller voir ça d'un peu plus près.
Un cas guerrier pour impressionner la direction.
France 2.
Depuis des semaines, les chercheurs de Sanofi se battent pour limiter la casse.
26 septembre 2012.
Ambiance beaucoup plus résignée ce matin. Un premier couperet est tombé, sur une vingtaine de sites, 900 postes supprimés. Et l'avenir des 640 salariés de Toulouse est incertain, des salariés écœurés, d'autant que leur entreprise a réalisé l'année dernière 5,5 milliards de bénéfices.
C'est toujours plus d'argent pour les actionnaires et puis de moins en moins pour les salariés.
Pas de licenciement sec, assure Sanofi, seulement des départs volontaires ou des aménagements de fin de carrière. Mais pour certains élus, ce plan est bien un exemple parfait de licenciement boursier. L'idée d'une loi refait surface.
Je pense qu'on doit reprendre la proposition de François Hollande et d'avoir un encadrement. Et personnellement, je suis pour une loi qui permette d'éviter ces licenciements-là.
La proposition de loi existe déjà, déposée à l'Assemblée par des députés communistes. Mais visiblement, aucune urgence pour la faire voter. Le gouvernement remet à plus tard.
Nous avons en tête un certain nombre de projets qui sont dans la discussion de la conférence.
Arnaud Montebourg.
La grande conférence sociale.
Un texte comme celui-ci vous aurait aidé.
Nous en reparlerons le moment venu.
On est dans le quartier Saint-Étienne, en plein cœur de Toulouse. Et on est devant la préfecture de Haute-Garonne. Et ce matin, il y a 200 blouses blanches là autour de moi qui sont venues avec les blouses un petit peu bariolées, d'autocollants, c'est marqué, de l'argent pour les actionnaires. Il y en a la migraine pour tous les salariés avec une boîte de Doliprane juste en dessous, produit bien évidemment par Sanofi.
Tout va bien ?
Voilà, on est dans la salle de conférence de presse. On va s'asseoir. Belle chaise rouge, là. Avec des dossiers dorés, grand miroir, grand lustre. Dans la salle de la préfecture de Haute-Garonne. On va écouter le ministre du redressement productif, Arnaud Montebourg.
Mesdames et messieurs, les propositions qui ont été faites sont des propositions qui sont en quelque sorte un compromis entre le désir des uns de ne voir rien changer et le désir des autres de voir tout disparaître. C'est une stratégie gagnant-gagnant par la voie du compromis, du dialogue et de l'échange de concessions réciproques, méthode que le gouvernement a choisie dans ce dossier extrêmement difficile. Ce que je veux dire, c'est que le gouvernement considère comme nécessaire qu'une entreprise qui a besoin de se réorganiser, de faire face à des évolutions de marché, puisse le faire. Nous ne sommes pas favorables au maintien dans le formol d'une entreprise, même si elle est performante, même si elle a des succès. Car une entreprise est un organisme vivant qui doit évoluer et s'adapter aux évolutions du marché. Avez-vous des questions ?
Bonjour, Gaëlle Van Vimerge de France Inter. Monsieur Montebourg, ça fait un an maintenant que vous êtes au ministère du redressement productif. Aujourd'hui, on ne parle pas de l'industrie sidérurgique, ni de l'industrie textile ou de l'industrie automobile. On parle de l'industrie pharmaceutique et du leader du CAC 40 français.
Une entreprise qui reçoit, qui plus est, des aides de l'État assez importantes sur le crédit impôt recherche, comment expliquer que vous trouviez impuissant, c'est un groupe qui a déjà licencié les années précédentes, face à un gros groupe qui tire chaque année des bénéfices substantiels, et notamment pour ses actionnaires, avec 50% des bénéfices qui sont versés aux actionnaires?
Je vais vous rappeler l'histoire que vous semblez ignorer, monsieur. Sanofi a annoncé la suppression de 2000 postes il y a un an, et nous avons obtenu par la discussion, par la conviction, et non pas l'impuissance que vous semblez alléguer, monsieur, d'abord l'engagement de zéro licenciement.
Pourtant, c'est une entreprise qui pourrait embaucher.
Mais qui ne vous dit qu'elle ne le fera pas? Car il n'y a aucun licenciement. Je dois partir. Merci.
Donc a priori, première info, Saint-Ou, il dirait qu'il ne faut pas que le site de Toulouse sorte de Sanofi. Ils ont estimé à 80 personnes de départ volontaire et de départ anticipé.
Monsieur, nous avons le regret de vous annoncer au nom de l'entreprise que votre présence parmi nous n'est plus souhaitée. La décision, en effet, a été prise de liquider l'usine qui vous embauchait. Malgré les dividendes qu'engrangent nos actionnaires, nous ne pourrons maintenir le train de nos affaires qu'en dégraissant la surcharge que vous représentez. Comprenez bien, cher monsieur, cette absolue nécessité.
Venu à Toulouse pour y rencontrer les syndicats vendredi, monsieur Montebourg s'est félicité que le rapport Saint-Ouille, qui a été accepté par la direction de Sanofi, offre un avenir au site toulousain de l'entreprise. Ce résultat, nous le devons à la mobilisation des salariés et aux efforts de la direction. Attendez, la suite est encore mieux. Avec laquelle la négociation a toujours été franche et constructive.
Nous vous sommes bien sûr très reconnaissants des efforts que vous avez fournis pour notre épanouissement et de l'argent de votre salaire reversé à l'achat des produits que vous aviez pourtant fabriqués.
5 projets de start-up sur les 8 proposés par les chercheurs du site pourraient être accueillis dans les locaux de Sanofi, ce qui permettrait de sauver 20 emplois de plus. Ouais.
Je sais, cher monsieur, que vous nous serez reconnaissants de vous avoir aiguillé sur de jolis placements, de vous avoir donné expérience et formation qui vous seront très utiles en ces temps de récession.
Enfin, 145 personnes pourraient être regroupées dans des fonctions support, informatique, achat, nettoyage. Allez les filles!
Vous quitterez votre logement dans les 3 mois, remettrez à l'accueil votre badge de parking, viderez votre casier, restituerez votre carte de cantine. Nous ne sommes pas ingrats et nous vous verserons des indemnités substantielles qui vous permettront de profiter de la vie et continuer un moment à consommer nos produits bien sagement.
Toujours à Toulouse, on vient de sortir de la préfecture et de la conférence de presse d'Arnaud Montebourg. Et j'ai entre les mains le rapport du ministère du redressement productif sur Sanofi qui nous a été donné à nous les journalistes pendant la conférence. Et on peut y lire qu'Arnaud Montebourg dit « Il n'y aura aucun licenciement à Sanofi Toulouse ». Alors c'est vrai, aucun salarié de Sanofi ne va pointer demain à Pôle emploi. Mais je lis aussi dans ce rapport que sur 612 emplois, 500 postes ici à Toulouse sont maintenus. Donc, petite soustraction, 612 moins 500 égale 112 personnes, voilà, dans l'incertitude, dont on ne sait pas vraiment où ils seront. Alors, on continue un petit peu plus bas. Le plan prévoit pour ces 112 personnes 80 départs volontaires ou départs anticipés, des reclassements hors de Sanofi dans des start-up et des centres de recherche créés pour l'occasion, dont certains, on peut lire, avec un soutien financier des collectivités locales. Ça, c'est intéressant. Ça veut dire que ce sont donc les pouvoirs publics qui vont devoir injecter de l'argent pour sauver l'emploi. Mais, parce qu'il y a un mais, beaucoup de postes ne seront sauvés que pour 5 ans, soit jusqu'en 2017-2018. Après, eh bien, dans 5 ans, Arnaud Montebourg et Sanofi ont certainement tout prévu. Catherine Lemorton, vous êtes députée PS de Haute-Garonne ici. Vous êtes aussi présidente de la commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale. Là, on a eu ce matin officiellement voilà, le rapport du ministère du redressement productif.
Moi, aujourd'hui, j'étais assez surprise de voir M. Lajoux, PDG de Sanofi, dire qu'il était d'accord sur le rapport. Il avait à peine ouvert une page. Moi, je venais de l'avoir dans les mains. Je me suis dit, cet homme-là lit très vite.
Alors pourquoi ?
Je ne sais pas. Soit il lit très vite, soit il l'avait un peu eu avant, j'en sais rien. C'est une question que je pose, mais c'était curieux.
Vous voulez dire que le rapport du ministère du redressement productif était un petit peu co-signé, on va dire, avec la direction de Sanofi?
Je ne peux pas l'affirmer parce que ce serait une affirmation gratuite que de dire qu'il l'avait vu avant. Mais en tout cas, j'ai vu une direction de Sanofi qui connaissait déjà vite le rapport. Et un des syndicalistes qui était autour de la table a demandé à la direction, à M. Lajoux, pour ne pas le nommer, mais êtes-vous sûr que dans 5 ans, en gros, il y aura les mêmes emplois qu'aujourd'hui? Quand je dis les mêmes emplois, c'est le nombre de gens. La direction n'a pas répondu. Voilà.
Est-ce que les pouvoirs publics ne sont pas pris aussi, eux aussi, dans l'étau? Puisqu'on voit que, par exemple, Sanofi a accepté ce plan du ministère du redressement productif, mais en sachant que les collectivités territoriales vont injecter de l'argent pour recréer les emplois que Sanofi aura laissés de côté.
Oui, il y a un chantage auprès des élus locaux, bien évidemment, en disant « il faut nous aider, sinon on s'en va ». Maintenant, c'est vrai que c'est une entreprise, ce sont des industries très particulières, la santé, puisque c'est nous qui les solvabilisons par la sécurité sociale. Donc on n'est pas sur l'industrie automobile, on n'est pas sur de l'industrie de la cordonnerie, enfin je veux dire voilà, on est sur des médicaments remboursés par la sécurité sociale, c'est-à-dire par les citoyens français. Et on est quand même dans un système où je pense que la puissance publique a son mot à dire.
Merci beaucoup Catherine Lemorton.
Merci.
Je suis pas déçue parce que je m'attendais à rien. Ça commence par Sanofi doit conserver le site de Toulouse en son sein et juste après, ils commencent à parler de spin-off et de start-up qui vont être intégrés pour pouvoir chercher des molécules, etc. Alors que c'est déjà ce que les gens font. Je veux dire, Sanofi, avec l'argent qu'ils gagnent, a les moyens de garder ses chercheurs. Qu'est-ce qu'il va aller chercher ce qu'ils ont déjà? Il va aller chercher à l'extérieur ce qu'ils ont déjà. Moi, je ne comprends même pas que le gouvernement, en pleine crise financière, où on voit que les entreprises, les unes derrière les autres, elles ferment, elles délocalisent, elles licencient sans remplacer, etc., se satisfassent d'un CDD de 5 ans pour 500 personnes. Moi, quand j'ai été embauchée à durée indéterminée jusqu'à ce qu'on me vire. Et bien, à ce moment-là, moi, je travaille à Sanofi.
Il y a aussi autre chose, c'est que l'État intervient avec les collectivités territoriales qui vont venir aider justement à recréer des sites de recherche ici à Toulouse pour recaser les salariés, les chercheurs de Sanofi. C'est bien ça? Ça vous fait rire?
Ah ouais, ça me fait rire. Oui, parce que effectivement, la région Midi-Pyrénées, elle doit aider une entreprise comme Sanofi qui est dans la difficulté, qui est la première entreprise du CAC 40, qui se fait 9 milliards de bénéfices. Je veux dire, on ne pourrait pas plutôt aider à la limite des entreprises autres que Sanofi. Sanofi a les moyens de sauver sa recherche, a les moyens de maintenir la recherche. Il faut arrêter de donner tout cet argent à Sanofi alors que ça peut aider d'autres choses. Regardons par exemple les chercheurs du public. Tous les mois, les gens ils sont virés les uns derrière les autres. Et ça parce que depuis peu, il y a... aux armes sanofiens. Santé des bâtiments. Criant, d'une seule voix, nos licenciements desservent notre santé est en danger. C'est bien Christophe Vivareur qui se plaît à tout.
Merci à toutes et à tous. C'était Sanofi, Sanofrique. Le capitalisme nuit gravement à la santé, un reportage de Gaylor Van Vimerge. Merci à tous les salariés de Sanofi, à Laurent Besson-Humbert, à Thierry Baudin, à Laurent Ziegelmeyer. Merci également à Catherine Lemorton. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter, à la rubrique Programme émission là-bas si j'y suis, également sur le site là-bas.org, là-bas.org, où vous pouvez réécouter cette émission. À la technique aujourd'hui, Philippe Duclos, Alexandre Chenet et Basile Bocquet. Lucie Hakoun et Chloé Sanchez ont réalisé cette émission préparée avec Grégory Salomonovic. Et Marion Dupas attend dès à présent vos messages sur le répondeur de la base si j'y suis au 01 56 40 37 37.
La Morinade, l'émission humoristique de Daniel Morin sur le Move, fait son live au studio 106 de la maison de Radio France. Participez à l'enregistrement de la dernière émission de la saison autour de Daniel Morin, Julia Foyce et de leurs chroniqueurs, jeudi 13 juin à 20h30. Ils vont terminer l'année en beauté et avec vous. Inscription sur lemove.fr. Le Move, une radio de Radio France.
Avec le temps.
France Inter présente Léo Ferré.
Avec le temps va.
Best-of 20e anniversaire.
Même les plus chouettes souvenirs.
La mémoire et la mer, la solitude, la vie d'artiste, Joli Môme, y inclut la version inédite, Le bateau espagnol de 1973.
C'est extra, les maudits blues.
35 titres incontournables, regroupés dans un double CD. Retrouvez Léo Ferré dans le programme musical de France Inter et sur franceinter.fr.
On se retrouve demain à 15h pour Là-bas si j'y suis. Il est 16h sur France Inter. Les infos, Laetitia Gaillet.
C'est tant mieux. Le nombre de morts sur les routes de France a de nouveau fortement baissé au mois de mai. Moins 29,5% par rapport à la même période l'an dernier, selon la sécurité routière qui donne ce chiffre cet après-midi. Sur les 5 premiers mois de l'année, 222 vies ont été sauvées grâce à la mauvaise météo et à la crise. On roule moins et on roule moins vite aussi grâce à l'entrée en vigueur de nouveaux radars mobiles. L'Élysée va créer une inspection des services de renseignement, annonce faite aujourd'hui. Elle devrait permettre cette inspection au gouvernement de consolider le contrôle et l'évaluation sur la politique du renseignement et les services qui en ont la charge. Après l'Union européenne, les États-Unis pourraient décider rapidement de fournir des armes aux rebelles syriens. C'est ce que dit aujourd'hui un responsable américain. La Maison-Blanche pourrait rendre sa décision en début de semaine, dit-on. Pour preuve, le secrétaire d'État américain John Kerry a reporté une tournée qu'il devait faire au Proche-Orient pour prendre part à ces réunions. Économiquement, les États-Unis vont mieux, en atteste la nouvelle note donnée par Standard & Poor's. Aujourd'hui, l'agence de notation qui avait privé les États-Unis de son triple A en 2011 a confirmé la note américaine actuelle AA+, mais elle a relevé dans le même temps la perspective de négative à stable. Selon Standard & Poor's, c'est dû au recul du risque budgétaire. Rémi Cointreau annonce aujourd'hui avoir vendu la maison de Cognac Larsen à un groupe finlandais Altia, montant de la transaction 53 millions d'euros. Pas d'explication à cette cession, selon les spécialistes du secteur. Quand il l'avait acheté il y a 6 mois, il n'était intéressé en fait que par les stocks d'eau de vie anciennes, stock qu'il a d'ailleurs conservé. Le procès de Jeremy Forrest s'est ouvert aujourd'hui dans le sud de l'Angleterre. Il s'agit de ce professeur britannique qui avait fui en France avec une de ses élèves mineures l'an dernier. Poursuivi pour enlèvement d'enfants, Jeremy Forrest est incarcéré depuis 8 mois. Il plaide non coupable. Il risque jusqu'à 7 ans de prison. Le procureur d'Annecy a confirmé aujourd'hui l'information parue ce matin dans Le Parisien aujourd'hui en France. Des appels téléphoniques entre la Roumanie et le frère d'une des victimes de la tuerie de Chevaline intriguent les enquêteurs. Maintenant, la piste familiale revient donc sur le devant de la scène pour expliquer cette affaire hors norme où les deux seules survivantes sont les deux filles du couple, de la grand-mère et d'un cycliste retrouvé mort en Haute-Savoie. Enfin, une automobiliste de 21 ans a été grièvement blessée au visage ce week-end dans Lyon. On l'apprend aujourd'hui. C'est en allumant une cigarette que le feu a pris après que sa passagère en fait se soit coiffée dans la voiture avec un aérosol. La jeune femme est aujourd'hui dans un état grave. Vous écoutez France Inter, il est presque 16h03.
Tous les dimanches, okay. À 20h10,
ouais, voilà.
Le masque et la plume.
Il est sévère.
Non.
Jérôme Garcin.
Rien à ajouter, non.
Littérature.
Je ne l'ai pas accablé.
Attends une seconde. Cinéma. C'est ça qui est intéressant dans le film. Il nous renvoie
ça
une image.
Ça m'avait échappé.
Théâtre.
Laissez-moi terminer, Jacques.
Franchement, quand le rideau est tombé, on avait l'impression que ça allait commencer enfin.
Pour assister à l'enregistrement du prochain masque et la plume.
Pardon.
Oui, mais non.
Rendez-vous jeudi dès 19h devant la porte B de la maison de Radio France.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
France Inter.
La voix est libre.
Bonjour Frédéric Lodéon, je vous cède la place.
Et bonjour Laetitia Gaillet, on vous retrouve à 17h.
A tout à l'heure.
carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous, je suis très content de la reconnaissance d'Emmanuel Chabrier, compositeur venu d'Auvergne avec ses parents. Il avait 15 ans en 1856 quand il est venu à Paris et jusqu'à ce qu'il meure de maladie au début des années 1890, il a vraiment réussi à trouver sa voie dans l'univers de la composition. Il a apporté beaucoup de fraîcheur dans l'atmosphère de serre de la capitale et on se moquait un peu de lui parce qu'il avait une attitude un petit peu brouillonne, il donnait l'impression d'être un paysan illettré, renforcé par un gabarit presque sphérique, c'était une bouboule. Et puis, tout ça a été complètement démenti par son brillant discours et sa faculté incroyable de jouer du piano, de déchiffrer, dès le premier coup d'œil, des œuvres très difficiles. Et bien, Chabrier, il est sur le devant de la scène et un grand chef international comme Néeme Järvi, qui a conduit presque toutes les œuvres, il a dirigé presque tout le répertoire qui existe sur Terre, il vient de signer un disque Chabrier avec l'orchestre de la Suisse romande. Voici un Allegro Franco, c'est clair. C'est franc, ça va tout droit, c'est tiré de l'étoile de Chabrier. Alors c'est une histoire un petit peu compliquée, superbement stupide, dit le livret, c'est vrai. Donc c'est le roi ouf qui, comme son nom l'indique, est un petit peu difficile. Et il a coutume de punir les malfaiteurs au moyen d'une chaise équipée d'une pointe acérée orientée vers le haut. Ouh, 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 ouh. Allegro Franco, c'est une petite pièce qui sert d'entracte avant l'acte 2 dans l'Étoile d'Emmanuel Chabrier, interprétée par l'Orchestre de la Suisse romande dirigé par Néeme Järvi. Dans ce beau disque Chandos, on trouve évidemment d'autres pièces. On va rester un petit peu avec l'Étoile et un autre entracte avant l'acte 3, celui-là, un mouvement de valse. Alors, il faut rassurer les âmes sensibles. Le roi ouf qui voulait empaler presque tous les contrebandiers, les malfaiteurs, à un moment donné, on lui dit attention, attention, les astres prédisent que si vous continuez comme ça, eh ben vous allez mourir si le châtiment des bandits se poursuit de cette manière-là. Alors évidemment, ça va mettre un peu la pagaille dans les esprits. Et heureusement, mouvement de valse. Mouvement de valse, toujours tiré de l'étoile d'Emmanuel Chabrier, et toujours par l'orchestre de la Suisse romande, dirigé par Néeme Järvi. Et on va faire un petit saut dans Le Roi malgré lui, si vous voulez bien, toujours de Chabrier, donc c'est quelque chose d'absolument compliqué, une complexité presque impénétrable, un opéra comique, et l'intrigue, comme l'a dit Vincent Dindy, autre compositeur ami de Chabrier, est vraiment incompréhensible. Les personnages entrent et sortent, arrivent quand ils devraient partir, ou partent quand ils devraient rester, et puis finalement, c'est tellement compliqué pour les metteurs en scène, pour les producteurs, qu'on ne donne pas beaucoup ce Roi malgré lui. Et c'est dommage parce que cette œuvre comporte pas mal de danses sympathiques et puis de mélodies tout à fait touchantes. Voici la vie.